Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. Première nuit de prison pour Lula. Après un dernier discours en public, l'ancien président du Brésil s'est livré à la police hier soir, comme il l'avait promis. À suivre, le drame de Münster qui a fait hier 2 morts et 20 de blessés. Les autorités allemandes écartent la thèse de l'attentat terroriste au profit du geste d'un déséquilibré suicidaire. Dans l'actualité de ce dimanche également, le troisième jour de grève à la SNCF avec un seul mot d'ordre, détermination. Détermination des cheminots, bien décidés à aller jusqu'au bout, détermination pour le Premier ministre Édouard Philippe qui n'entend pas fléchir. Côté sport, la France a 1 point de la qualification pour les demi-finales de la Coupe Davis en tennis, mais aussi le coup d'envoi de Paris-Roubaix en cyclisme et du Marathon de Paris dans quelques minutes dans la capitale. Rendez-vous dans le Journal des Sports présenté par Jérôme Val. L'ancien président brésilien s'est donc rendu hier soir à la police à l'issue d'une soirée plutôt mouvementée. Lula, qui passe donc sa première nuit en prison, alors que les forces de l'ordre ont dû disperser à coups de gaz lacrymogène les manifestants rassemblés autour du siège de la police fédérale de Curitiba, là où l'ex-président, âgé de 72 ans, est détenu. Lula, qui durant la journée d'hier avait annoncé devant des milliers de sympathisants son intention de se livrer à la police, la dernière intervention politique et publique de ce tribun hors pair, suivie par notre correspondante Anne Vignard.
Ce samedi restera pour les militants de gauche une des journées les plus tristes de leur histoire. Et les mots de Lula ne les ont guère consolés. Pourtant, ils ont eu droit à 1 heure d'un discours où Lula a rappelé toute sa vie politique, depuis ce syndicat des métallos où il se trouvait, jusqu'au palais présidentiel où il voulait retourner pour la 3e fois.
J'ai rêvé de pouvoir gouverner ce pays en améliorant l'économie de millions et de millions de pauvres. Qu'il était possible de mettre les étudiants de la périphérie et les inscrire dans les meilleures universités du pays pour qu'on ait plus de procureurs et de juges qui n'appartiennent pas qu'à l'élite. C'est ce crime que j'ai commis et ils ne veulent pas que je le commette à nouveau. Mais je vais vous dire, je vais continuer à être ce genre de criminel dans ce pays et je vais continuer à me battre.
Se battre, a dit Lula, pour prouver mon innocence. Je ne les pardonne pas de m'avoir fait passer pour un voleur. La dernière image du président restera dans les mémoires, portée par les militants, poing levé et sourire aux lèvres, au milieu d'une foule en pleurs. Rio de Janeiro, Andinia France Inter.
Lula condamné à 12 ans de réclusion pour motif de corruption et de blanchiment d'argent, mais qui entend bien pourtant se porter candidat à la prochaine présidentielle.
En Allemagne, le drame de Münster serait l'œuvre d'un déséquilibré.
C'est en effet la thèse de la police allemande, selon laquelle l'homme qui aurait foncé hier au volant de sa camionnette sur les clients attablés à la terrasse d'un restaurant, tuant et blessant plusieurs personnes avant de se suicider, cet homme donc souffrait de troubles psychiatriques. Quentin Dickinson, vous êtes sur place à Münster. Alors, que dit-on ce matin sur place? La thèse de l'attentat est-elle complètement écartée, Quentin?
Il paraît en effet, cher Serge, il est acquis ce matin que ce drame n'a pas pour origine le terrorisme islamiste, mais bien les troubles psychologiques graves dont souffrait depuis longtemps l'auteur des faits, identifié par la police comme étant Jens R., un ressortissant allemand de 49 ans et qui était domicilié dans le centre-ville, non loin de la brasserie dont il a dévasté la terrasse en emportant dans la mort 2 serveurs de l'établissement et en blessant 20 de clients, dont 6 grièvement. L'homme, décrit diversement comme marginal, déboussolé et désespéré, s'avérait très influençable et souvent violent. La découverte chez lui et dans la camionnette Bélier d'armes à feu, dont un fusil d'assaut, de munitions et de quoi préparer des engins explosifs artisanaux, éclaire d'un jour nouveau et inquiétant la dérive mentale de ce sympathisant de l'extrême droite allemande. Passé le choc dans l'opinion et après la pause qu'impose en pareille circonstance la simple décence vis-à-vis des victimes, plusieurs questions ne manqueront pas d'être posées au sein de la classe politique, en particulier comment les autorités médicales et policières n'ont-elles pas détecté la dangerosité croissante pour la société d'un individu qui, à peine rescapé d'une tentative de suicide, répétait à qui voulait l'entendre que lorsqu'il se donnerait la mort, beaucoup de gens en parleraient.
Quentin Dickinson en direct de Münster. Et puis en Syrie, les bombardements ont repris sur la route orientale près de Damas. Le régime syrien tente de reprendre les derniers secteurs encore aux mains des rebelles. Selon les services de secours sur place, les raids aériens auraient tué 70 civils ces dernières 24 heures.
Alors que les cheminots de la SNCF ont entamé hier leur 2e période de grève, le ton semble se radicaliser de part et d'autre.
Oui, c'est tout d'abord le gouvernement qui n'hésite pas à afficher son intention intransigeance. Dans les colonnes du Parisien de ce dimanche, Édouard Philippe souligne que la fin du statut des cheminots n'est pas négociable. Propos que le Premier ministre, invité de France Inter jeudi dernier, avait déjà tenu sur notre antenne. Ce sont ensuite les cheminots eux-mêmes qui entendent ne pas baisser les bras et chez qui la détermination reste intacte, comme a pu le constater en Alsace Olivier Vogel.
Jonathan est conducteur de train à Mulhouse. Il se dit heurté par l'inflexibilité du gouvernement.
Ça touche beaucoup parce que des gros efforts de productivité, on les a faits. Et derrière, on vient encore avec ça. On a encore des points d'interrogation au-dessus de la tête. Et puis derrière, c'est inflexible. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion. Donc ouais, ça nous heurte.
Pour Mourad, qui travaille au guichet de la gare de Strasbourg, l'attitude du gouvernement est une véritable déclaration de guerre.
On est face à un gouvernement qui ne veut pas baisser les bras. Mais bon, par contre, nous aussi, c'est pareil, on ne baissera pas les bras, on ne lâchera rien. Le moral, pour le moment, ça va, on s'accroche et on ne lâchera rien non plus, quoi. La démocratie s'éloigne un petit peu par rapport à ce qu'on peut entendre. On est en France, on voit qu'il y a un gouvernement qui veut passer tout ce qui est possible par la force, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on soit tous unis, il faut que tous les cheminots soient ensemble et il n'y a que comme ça qu'on gagnera la bataille. Pour le moment, ma capacité me le permet, donc je tiens tous les jours de grève. Oui.
Et le mouvement peut durer longtemps, c'est ce que promet Arnaud, qui est agent de quai à Strasbourg.
C'est parti vraisemblablement pour durer, sauf si maintenant le gouvernement décide de revoir totalement sa posture et d'ouvrir de réelles négociations.
Ce qui, pour l'instant, n'est pas vraiment prévu au programme.
Un reportage d'Olivier Vogel de France Bleu Alsace, un conflit qui ne manquera pas d'être évoqué par Emmanuel Macron, invité du 13h de TF1 jeudi prochain, et alors que l'examen du projet de loi SNCF débute demain à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le trafic de ce dimanche, il devrait être, selon les prévisions de la direction, d'un TGV sur 5 et d'un TER sur 3.
Et c'est à midi que s'achèvera à Aubervilliers le 78e congrès du Parti Socialiste, et c'est l'occasion de mettre un homme en avant.
Un homme, et en l'occurrence le tout nouveau patron du PS. C'est en effet Olivier Faure que va revenir la tâche de prononcer le discours de clôture, l'opportunité pour le tout nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste de livrer sa feuille de route et peut-être aussi un peu de lui-même, Louise Baudet.
Sa force, c'est qu'il est inconnu des Français, une page blanche pas chargée des défauts du passé. Commentaire d'un ancien ministre à propos d'Olivier Faure, 49 ans, dont presque 35 passés au PS. Le jeune Orléanais, fils d'un agent des impôts et d'une infirmière vietnamienne d'origine, entre en socialisme à 16 ans, tendance jeune rocardien, où il côtoie Manuel Valls, mais aussi Benoît Hamon, un temps son colocataire, puis son collègue auprès de Martine Aubry, alors ministre du Travail. Aubry, sa mère en politique, dont il reste très proche. Une autre filiation le rattache à François Hollande, son patron à Solferino dans les années 2000. Hollandais sous le précédent quinquennat, il prend cependant ses distances sur la déchéance de nationalité ou la loi travail légitimiste et en même temps apprécié des frondeurs. Bref, un avatar de la synthèse molle critique ses détracteurs. Ses amis comme ses rivaux le disent intelligent, cultivé, réfléchi. Il ne se rêve pas candidat à la présidentielle, ce qui pour l'heure est un atout. Pas un homme pressé d'y arriver donc, sauf quand il s'agit de s'exprimer. Les mots alors se bousculent, l'élocution se fait saccader. Petit défi à relever aujourd'hui au regard de la tâche immense qui l'attend à la tête du parti.
Nous allons maintenant nous rendre à Lyon pour refermer ce journal. Lyon se tient en ce moment la 14e édition de Quai du Polar, un genre policier de plus en plus en vogue, avec une mention toute particulière pour le polar historique, mais une histoire qui se fait de plus en plus contemporaine, une évolution suivie par Jacqueline Pétrose.
18e siècle, Moyen-Âge ou Chine ancienne sont bien sûr toujours de très grands succès, mais le temps passe et les nouveaux lecteurs sont friands d'époques plus récentes. Les auteurs aussi, qui sont plus jeunes, comme Jérémy Guèze ou Xavier Boissel, traitent de notre passé proche. Vanessa Gennari, éditrice Grand Détective chez 10-18.
On a de plus en plus d'auteurs qui ont envie de traiter par exemple de l'après-Seconde Guerre mondiale. La guerre d'Indochine, par exemple, c'est une époque qui a été beaucoup moins traitée en polar. La France des années 60, les dessous du gaullisme, pareil, et c'est frappant de voir que des époques si proches de nous, on n'est pas au fait de tout ce qui a pu se passer à ce moment-là.
Et ça marche fort. Le polar historique, c'est le mélange des genres. Chez 10-18, en 35 ans, on compte plus de 1000 titres et 30 millions d'exemplaires vendus, avec un point d'honneur, des bases sérieuses.
Il y a des petites phrases qu'on remarque à peine. Par exemple, il prit la rue du Chat-Perché, mais on est à Paris en 1920. Et ben, cette simple phrase, l'auteur a dû passer des heures et des heures pour vérifier si vraiment voilà, cette rue existait à ce moment-là. Il y a d'abord, on va dire, 6 mois qui sont consacrés que aux recherches.
Et le genre fait aussi le bonheur du petit écran, comme France Télévisions et son adaptation du très populaire Nicolas Le Floch.
Quai du Polar, c'est à Lyon jusqu'à ce soir. Des auteurs du monde entier, 120 au total, vous y attendent. Et c'est la fin de ce journal, et donc c'est à vous, Eric Delvaux.
Le journal de Serge Martin.